on a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise pollution.
Il s'agit de textes qui incitent l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette, jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.
Couleur noire est essentielle.
J'ai rencontré des gens qui écoutaient du métal. Cette violence tout de suite, cette violence, ces coups qui tapent dans les oreilles tout de suite, ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit, moi j'ai reçu une onction métal d'un seul coup.
Noise pollution.
Je ne vois pas comment une société responsable peut fermer les yeux devant ce genre de choses en prétendant que c'est un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Je voudrais savoir si les paroles qui accompagnent cette musique sont aussi sataniques que les images.
Il y a le power metal, la nouvelle vague de heavy metal britannique, le metal progressif, le glam metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le thrash metal, le grunge. Je crois toujours que cette musique n'est qu'un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Voilà, il est 20h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Après le Canu Info quotidien de la plus rebelle des radios, on va écouter de la musique métal, du hard rock, de tout ce qui se rapproche autour de ces styles-là, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein, puisque vous savez que c'est le style de musique où il y a plus de sous-genres, de sous-sous-genres, de sous-sous-genres et de sous-sous-genres. Et donc voilà, on est ensemble jusqu'à 9h. À partir de 9h, il y a Negative Outlook pour la partie un peu punk de la soirée de la plus rebelle des radios. On va ouvrir cette émission de manière un peu calme. Je me suis dit, on va commencer tout doucement. En plus, comme Jean-Pierre est encore en vacances, la partie la plus un peu violente ou extrême du métal, c'est lui qui l'amène, donc ce sera plutôt cool. Et puis on va commencer par un morceau qui fait beaucoup penser à Led Zeppelin. Il faut dire que c'est ce qu'on appelle un super groupe, c'est-à-dire la réunion de musiciens déjà très confirmés, voire célèbres. Le groupe, c'est Black Country Communion. C'est le deuxième album en moins d'un an, hein, puisque le dernier était sorti il y a une dizaine de mois. Le premier, donc là, il s'appelle 2, tout simplement. Ça lorgne un peu sur Led Zeppelin dans la manière aussi de présenter les disques, hein, 1, 2, etc. Ensuite, alors les musicaux, c'est Glenn Hughes au chant et à la basse, qui a chanté entre autres dans Deep Purple. Jason Bonham, donc fils du batteur de Led Zeppelin. Derek Sherinian au clavier, qui jouait entre autres dans Dream Theater. Et Joe Bonamassa, qui est un guitariste de blues, qui s'essaye donc au hard rock. Et on s'écoute un morceau qui s'appelle I Can See Your Spirit. Si vous aimez les choses qui lornent sur les années 70, c'est vraiment exceptionnellement bon.
Full of life and you.
Voilà, toujours à l'écoute de Radio Canyon. On a écouté donc un morceau un peu Led Zeppelinien, Black Country Communion, c'est ce méga groupe avec donc Glenn Hughes au chant et à la basse, et surtout en composition, parce que c'est lui qui compose la majorité des morceaux. Donc I Can See Your Spirit, extrait de cet album qui s'appelle 2. Et alors tout de suite on change de style, on passe du côté d'un groupe qui faisait autrefois du death metal assez technique et mélodique, les In Flames, et c'est le nouvel album qui s'appelle, je vais pas dire de bêtises, Sound of the Playground Fading. Et alors ils ont beaucoup changé de style depuis 2002, c'est plus metal moderne. Je vous laisse découvrir un morceau de ce tout nouvel album. Voilà donc un extrait du nouvel album d'In Flames. Donc le morceau que j'ai choisi, le cinquième, Fear in the Weakness. Donc extrait de ce nouvel album, Sound of the Playground Fading. Alors bien sûr, si vous êtes arrêté dans les années 90, la période glorieuse, on va dire, du groupe, ça a quand même pas mal changé. C'est beaucoup plus, beaucoup moins def, hein, parce que il y a quand même beaucoup de chants clairs maintenant sur le disque, quasiment tout en chant clair. Et puis ça lorne beaucoup du côté métal moderne. C'est un peu le même chemin que fait en ce moment The Hunted, groupe de thrash du nord de l'Europe aussi. Bah, là, c'est un groupe suédois aussi, In Flames, avec, je trouve, beaucoup plus de réussite chez le groupe The Hunted, même si l'album de In Flames est pas mal du tout. Après, c'est un album qui divise maintenant. Le groupe a ses détracteurs et ses fans. Ce qu'on notera quand même, c'est que le disque se vend plutôt bien en Europe et même en France, où il était classé dans les 50 meilleurs disques vendus la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'ils ont gardé quand même une masse de fans malgré ce changement de musique. Alors, on va retourner à l'année dernière, en 2010, une année assez bonne pour les sorties trash, puisque c'est de ce style dont il est question tout de suite. Avec un vieux de la vieille, hein, puisqu'on va parler d'Overkill, groupe américain qui s'est formé, je crois, en 1980 et qui a sorti son premier album du style en 85. Alors c'est vrai que moi j'avais bien perçu Overkill au début comme un second couteau. Hein, ils arrivaient derrière tout le monde. Il y avait quand on écoutait leur premier disque, il y a des moments, tiens, ça ressemble à Metallica, tiens, ça ressemble à ça, tiens, ça ressemble à... Et puis ils ont su continuer à travailler, s'affirmer, sortir des albums excellents. Il y a quelques albums qui font référence, comme Horoscope. Et puis eux, contrairement à certains gros groupes de trash, ils ont continué, ils se sont améliorés. Et l'année dernière est sorti le dernier album pour l'instant d'Overkill, qui s'appelle Iron Bond, et qui est une petite merveille de trash, avec toujours, alors, un son ultra moderne, et puis voilà, des rythmiques qui tuent, des solos très bons aussi, et puis un petit côté mélodique, hein, qu'on retrouve dans Overkill. Je vous propose le morceau qui a donné le nom à l'album, Iron Bond. C'est peut-être le morceau le plus efficace du disque, mais c'est vraiment tout dans ce style-là. Moi, c'est quasiment mon album préféré d'Overkill, avec Horoscope. Voilà, ils sont vraiment au top du top aujourd'hui du thrash. Ils ont largement écrasé tous les concurrents qui pouvaient rester, Metallica, Megadeth et autres. Voilà, les Américains d'Overkill en 2010, ça, c'est, voilà, du trash old school, puisqu'on retrouve tout ce qui faisait un peu la musique trash des années 80, de la fin des années 80, avec des rythmiques complexes, des breaks, vous avez vu pas mal de solos de guitare au milieu, et puis, par contre, un son moderne, puisqu'on est en 2010 sur ce Iron Bond, donc dernier album en date, sorti l'année dernière. Le top du top, ils ont eu une période un petit peu noire au milieu il y a quelques années, où ils ont laissé tomber un petit peu le trash, ils ont fait un peu comme Slayer, où ils sont un peu simplifié leur musique et pris un petit côté un peu punk hardcore, mais c'est resté quand même très bien malgré ce petit changement de style, et puis là ils sont revenus vraiment au trash traditionnel de la Bay Area. C'est normal, c'est un groupe américain, vous allez me dire. Allez, on reste sur le continent américain, mais on passe plus au nord, là où il fait très très froid. On va au Canada avec le groupe canadien de métal, on va dire, le plus connu au monde, c'est Anvil. Alors, il y a d'autres groupes, hein, vous allez me dire, largement, mais Anvil, ils sont connus pour être un peu ceux qui n'ont pas de chance, les seconds couteaux éternels, ceux qui réussissent jamais. Grâce à ça, d'ailleurs, il y avait eu un très très beau film qui était sorti il y a 2-3 ans sur l'histoire d'Anvil. Un film vraiment très touchant, hein. On voit les deux personnages clés du groupe que sont le guitariste et le chanteur. J'ai raté des trucs en cours de route, non, je crois pas. Et continuer à travailler et puis à s'endetter, emprunter auprès de leur famille pour enregistrer des disques et des disques qui marchent pas, trouver une maison de disques, trouver un producteur, enfin c'est une énorme galère, et c'est un petit peu l'histoire des perdants du rock'n'roll, le groupe Anvil, à travers ce très très beau film qui est un film sur le rock, quoi, qu'on aime ou pas le métal, c'est vraiment un film à voir, parce que on suit ces deux personnages qui font de la musique depuis une vingtaine d'années, bah, 30 ans même maintenant, et qui croient toujours, alors qu'ils galèrent toujours et qu'ils jouent pas beaucoup et que ils tournent à des endroits devant 30-40 personnes. Alors certes, depuis la sortie du film, qui est une espèce de seconde vie pour le groupe, puisque on les a vus dans des festivals ouvrir pour avec plein de gens, enfin des milliers de personnes qui venaient parce qu'ils avaient vu le film et qui voulaient soutenir ce groupe qui est devenu finalement un groupe culte grâce à ce documentaire. N'empêche qu'ils ont sorti des albums qui étaient plutôt pas mal, hein, notamment le celui qui fait référence, Metal to Metal. Alors là, c'est le nouvel album. Je vous ai parlé de Anvil pour vous présenter le nouvel album qui s'appelle Juggernaut of Justice. Alors moi je suis resté sur ma faim, mais c'est un peu le cas de moi. Je suis pas très fan d'Anvil. Je trouve que voilà, Metal to Metal c'est bien, et puis Metal on Metal plutôt même. Et puis après ils ont fait que reprendre voilà un peu un bout de Judas Priest, un bout d'AC/DC, un bout de truc, un bout de voilà, ils avaient un style, ils ont quasiment créé le speed metal, mais ils ont pas su continuer dans ce style-là. Faute de succès, je pense aussi. Mais bon, il y a quand même quelques bons morceaux sur ce disque, et notamment celui que je vous propose, qui est un morceau un peu énergique, qui s'appelle On Fire, donc les Canadiens de Anvil.
Inside.
Voilà, les Canadiens de Enville, extrait de leur tout nouvel album Juggernaut of Justice, et c'est un morceau un peu énergique, un peu binaire, très très rock'n'roll. On pourrait, ça pourrait presque être un morceau de Motorhead, mais façon Enville. Voilà, et, bon, l'album est très varié. Il y a un peu tous les styles. Il y a des morceaux qui l'ont plutôt vu vers Judas. C'est un peu le reproche qu'on peut leur faire quand même. Mais bon, on leur souhaite bien du courage puisque ils font vraiment, ils s'accrochent toujours. Vous êtes toujours à l'écoute de Noise Pollution sur le 102.2 de Radio Canu. Il nous reste encore une demi-heure pour écouter du métal et tous les styles qui s'en rapprochent. Une nouveauté tout de suite qu'on a déjà écouté les semaines précédentes, du métal progressif, donc un métal très technique avec plein de solos de clavier, de guitare dans tous les sens. C'est Symphony X, donc voilà, le nouvel album s'appelle Iconoclast, le digne successeur à celui d'avant, hein, qui s'appelait Paradise Lost. Voilà, j'avais failli perdre le nom. Et alors on est loin de ce qu'ils ont pu faire autrefois, c'est-à-dire cette espèce de heavy metal inspiré par le jeu d'Ingu Malmsteen, avec des gammes néoclassiques jouées à tour de bras. Là, c'est beaucoup plus heavy. Le chanteur d'ailleurs a vraiment force beaucoup sur sa voix. Il chante de manière beaucoup plus agressive. Et alors ceux qui aimaient plutôt le côté cool progressif de Symphony X sont un peu déçus de ces deux derniers albums, mais pour les autres c'est vraiment la claque à chaque fois. Je vous laisse cette semaine avec le morceau qui s'appelle Hérétique de cet excellent nouvel album Iconoclast, les Américains de Symphony X. le groupe s'éloigne quand même de plus en plus du métal progressif pour se rapprocher du heavy plein de trash, hein, puisque voilà, c'est la nouvelle voix de Symphony X depuis deux disques. Là, c'est toujours le nouvel album Iconoclast. Et le morceau, c'était Hérétique. Alors, on va calmer le jeu. Là, on va passer à un truc mou, voire ultra commercial, qui s'appelle Def Leppard. Donc, Def Leppard, groupe des années 80, qui avait sorti au début des albums qui étaient vraiment très très bien, de hard rock, qu'on pourrait qualifié de classique aujourd'hui. Et puis voilà, le succès aidant, ils sont rentrés dans une phase ultra commerciale avec des albums ultra ultra produits. Ça a commencé à partir d'Hysteria et ça a été voilà, difficile de suivre ensuite. C'est voilà un groupe qui avait, je pense, pas mal de talent, mais qui voilà, a trop vouloir faire des tubes, c'est fourvoyé. Sauf qu'ils sont revenus il y a peut-être deux ans avec un dernier album qui était qui lorgnait sur leur début, c'était un côté plus rock'n'roll tout en restant cette musique accessible que pratique Def Leppard. Et puis là, ils sont de retour avec un album live. Alors c'est le premier album live, même si on retrouve des CD live dans les rééditions récente des albums où qui était sorti en double avec un CD live. Là voilà, c'est un live récent. Ça s'appelle Mirror Ball. Alors ça fait plaisir quand même d'écouter les morceaux de Def Leppard que moi j'ai pu écouter dans les années 80 avec un son plus intéressant, puisque live plus direct, moins ultra produit comme le groupe pouvait l'être au début des années 90. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors faut aimer Def Leppard, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et je nous propose le morceau qui ouvre ce double album Rock Rock Till You Drop, les Anglais de Def Leppard. Voilà donc les Anglais de Def Leppard, un peu moins guimauve hein, que ce qu'ils ont pu faire pendant les années 2000 et la fin des années 90. Plus rock'n'roll puisque c'est logique, c'est un live. Donc double album live qui contient trois titres studio totalement inutiles. C'est un peu bizarre ce mélange de faire un double live et rajouter trois titres studio. Non pas que les titres soient mauvais, mais voilà, ça casse un peu l'ambiance de ce double live. On va juste faire un petit break pour parler des concerts qui vont avoir lieu très bientôt et à la rentrée. Donc je vous rappelle que le 18 juillet, si tout va bien, Sepultura jouera au Ninkasi Kao. En octobre, alors je vais faire le 3 octobre, il y a Samael au Kao. Le 12 octobre, il y a Edgai au Transbo. Le 20 octobre, il y a Doro au Kao. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? En novembre, il y a KMFDM au KO, le 3. Le 9 novembre, Isodurf au Transborder. J'ai raté le 6 novembre, Alice Cooper à l'Al Tony Garnier. Et le 14 novembre, Scorpion à l'Al Tony Garnier. J'ai raté le 26 octobre, Pain, pour les amateurs de métal industriel. Within Temptation le 8 octobre, mais je crois que c'est complet. Et Deep Purple qui joue très bientôt, c'est dans 15 jours, le 27 juillet, avec l'Orchestre Philharmonique de Francfort à Vienne. Voilà, j'ai tout dit pour les concerts.
2010, 2009, 2008, 2007, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999,
puisque nous allons vers un des groupes fondateurs du style et qui est tombé dans l'oubli. C'est assez bizarre. Le groupe s'appelle Budgie. Je prononce peut-être autrement. Ça s'écrit B-U-D-G-I-E. Donc avec des pochettes qui ressemblent à des pochettes de rock progressif un petit peu. Donc c'est le deuxième album. Le premier est sorti en 1971. Donc il y a 30 ans très exact. 40 ans, oh putain, c'est nous vieillis, hein. 40 ans, je vous propose plutôt un extrait du deuxième album. Donc les 5 premiers albums de Budgie sont exceptionnellement bons. C'est le hard rock que pouvait se pratiquer au tout début des années 70. À l'époque, donc il y avait Led Zepp, des groupes comme ça. Le Budgie était vraiment un des meilleurs groupes du genre sur les 5 premiers. Après, quand ils ont atteint les années 80, eh ben ils sont rentrés dans une phase un peu plus influencée par la New Wave of British Heavy Metal et surtout un peu plus FM, ce qui les rend moins intéressants par la suite. Mais à l'époque, ils avaient quand même pas mal de succès. On les voit dans les festivals, ils jouaient vraiment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors qu'aujourd'hui, le groupe a disparu. Sauf que il y a un morceau qui est revenu un petit peu à la mode il y a quelques années, dont on va s'écouter la version original de Budgie et juste après la reprise du groupe qui a fait ressorti le morceau. Donc le morceau s'appelle Bread Fan, c'est extrait donc du deuxième album Never Turn Your Back on a Friend. Budgie tout de suite, donc il y a 37 ans, il y a 37 ans de ça sortait ce disque.
We'll be right back.
Voilà, donc on est en 1973, le groupe Budgie avec le morceau Bread Fan, deuxième album du groupe. Notons qu'entre les morceaux électriques comme ça, il y a des morceaux purement acoustiques, années 70, ce qui caractérise aussi le style du groupe. Et puis alors là, la version moderne, on va dire entre guillemets, puisque c'est une version qui doit dater de la fin, du début des années 90 peut-être, ou de la fin des années 80, par Metallica, le même morceau, Bread Fan. C'était une phase B à l'époque, il me semble, et puis après ça a été regroupé dans le double album de reprise Garage Inc. Donc voilà, tout de suite, la version trashisante. Voilà, Brett Fan repris donc par Metallica sur le double album de reprise que je pense que vous connaissez tous et toutes. Il reste 2 minutes, donc on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, 20h-21h pour Noise Pollution. D'ici quelques minutes, l'émission de punk Negative Outlook. En attendant, un dernier morceau. Il s'agit du deuxième album d'un groupe qui s'appelle Portrait. Alors, ça fait partie de la vague des gens qui s'inspirent des années 80, notamment de Mercyful Fate, groupe génialissime et culte de ces années-là. On a déjà présenté ici dans l'émission un groupe qui s'appelle In Solitude, qui a sorti 2 albums vraiment excellents. Là, c'est Portrait. Le premier album n'était pas terrible, le deuxième est mieux, mais je trouve que les gens s'emballent. En tout cas, les critiques et puis certains sur certains forums, ça s'emballe sur ce groupe que je trouve bien moins intéressant qu'In Solitude. C'est beaucoup plus Mercyful aussi. C'est moins personnel. Alors l'album, il a un nom imprononçable. Là, ça doit faire Crimen Laesae Majestae Divenae, enfin voilà, ils mettent du latin un peu pour faire savant. Et le morceau que je vous propose s'appelle Infinite Descension. Voilà, le groupe Portrait qui lorgne sur les années 80 et sur ce groupe génialissime qu'était Mercyful Fate. Bye bye, à la semaine prochaine.